Ah non.
Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
This is why I'm hot. Voilà, vous avez vu, on l'a chassé du studio, Raphaël Bourgois. À dimanche prochain, Raphaël. Vous êtes sur France Culture, il est précisément 19h. Passez de quelques secondes, bienvenue dans Soft Power en direct jusqu'à 20h. Le marché de l'art entre innovation et récession entre Londres et Paris. Le marché de l'art à l'occasion de la FIAC ce week-end à Paris, la foire internationale de l'art contemporain, l'événement autour duquel ce débat se construit. Les galeries s'ouvrent, les musées dialoguent entre eux. Nous allons consacrer une large partie de cette émission au marché de l'art et puis ensuite au marché de l'art contemporain ce soir dans Soft Power. Avec nous dans cette émission en direct, Jennifer Flay, directrice de la FIAC. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes d'ailleurs néo-zélandaise.
Je suis néo-zélandaise.
Et française. Naturalisée
française.
Merci en tout cas de faire l'effort de vous exprimer très bien en français, comme d'ailleurs Mario Tavella, PDG de Sotheby's France. Bonsoir. Vous êtes italien.
Je suis italien et j'ai vécu pour 26 années à Londres.
Alors un italien qui a vécu à Londres et maintenant qui est à Paris,
France,
qui dirige Sotheby's. Et aussi vous êtes vice-président de Sotheby's Europe.
Mais en effet, président.
Voilà, président, vice-président, CEO, patron, voilà, il y a plein de titres. Avec vous, nous évoquerons la stratégie des foires de l'art, la cartographie des capitales des marchés de l'art entre Londres et Paris, mais aussi Dubaï, Miami, Bâle ou Hong Kong, les ventes aux enchères par rapport aux maisons de vente et aux galeries. Nous évoquerons également le ralentissement du marché de l'art en dépit de la bonne résilience du marché de l'art français. De tout cela, nous parlons ce soir avec vous donc, Jennifer Flay, directrice de la FIAC, la FIAC qui s'est ouverte jeudi, qui se termine ce soir, et Mario Tavella, patron de la maison de vente donc Sotheby's, ainsi que à mes côtés pour vous interroger tout au long de cette émission, Martine Robert, journaliste aux Échos. Bonsoir Martine.
Bonsoir.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité du numérique, des médias et des industries créatives avec vous, Solveig Godeluc. Bonsoir,
bonsoir
madame. On tentera avec vous de décrypter la cyberattaque majeure qui a eu lieu aux États-Unis et en Europe, rendant indisponible vendredi soir Twitter, Netflix ou encore Spotify, eBay, Amazon ou Airbnb. On évoquera aussi avec vous le rachat par AT&T de Time Warner. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage, Xavier Niel, le patron de Free. C'est une biographie, le livre vient de paraître ce jeudi. Xavier Niel, la voix du pirate aux éditions First. On en parle également avec vous dans un instant. On écoutera également au cours de cette émission Wax Taylor et David Bowie, tout ça dans Soft Power jusqu'à 20h. Cette émission réalisée ce soir par Philippe Baudouin avec en régie, il a déjà été annoncé, Alexandre Dang. Elle a été préparée, cette émission, par David Lavaux et bien sûr vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, puisqu'il marche maintenant, Twitter remarche, au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook en podcast et sur France Culture en direct. Pour commencer cette émission, et comme chaque semaine, je retiens dans l'actualité un événement, un livre, un sujet qui m'a intéressé. Et ce soir, j'aimerais mentionner un essai sur la politique culturelle enjeu du XXIe siècle. Le livre est signé par Guillaume Cerruti, qui fut le directeur de cabinet de Jean-Jacques Ayagon lorsque celui-ci était ministre de la Culture. Et depuis, Guillaume Cerruti a dirigé la maison de vente aux enchères Sotheby's avant de prendre la direction de Christie's, son concurrent. Dans cet essai, constitué essentiellement des chroniques que Guillaume Cerruti a publiées dans le quotidien de l'art ces deux dernières années, l'auteur développe sa vision d'une politique culturelle moderne, ouverte, mais aussi globale. On pouvait craindre le discours un peu techno, déconnecté de la vie artistique, mais Cerruti, étant un acteur du marché de l'art, il arrive à combiner, à créer des ponts entre l'histoire de notre politique publique et sa nécessaire adaptation à l'ère de la mondialisation et des technologies. L'essai se présente comme un petit dictionnaire par thème, comme autant d'entrées qu'on peut lire séparément. École, intermittent, décentralisation, numérisation, autant d'enjeux, mais aussi autant d'angles morts de notre politique culturelle. Entre le privé et le public, entre la France et le monde, notre politique culturelle paraît à bout de souffle depuis tellement d'années qu'il faut peut-être apprendre à vivre avec cette crise permanente. Certains proposent de supprimer le ministère de la Culture, d'autres de doubler son budget. Loin des nostalgiques comme des radicaux, Guillaume Cerutti se propose d'avancer et de réformer en douceur. C'est peut-être moins excitant qu'une grande révolution, mais c'est sans doute plus constructif. Le recueil des chroniques de Guillaume Cerutti, La politique culturelle, enjeu du XXIe siècle, vient de paraître aux éditions Odile Jacob. À l'instant, un extrait du morceau « Démagogue », hein, on entend Franz Ferdinand. Ce titre s'inscrit dans l'initiative 30 Days, 30 Days, 30 Songs, 30 jours, 30 chansons, une chanson par jour en quelque sorte, jusqu'à la présidentielle américaine. Le projet a été imaginé par l'écrivain Dave Eggers, qu'on connaît pour son célèbre roman « The Circle », « Le Cercle », paru chez Gallimard, une dystopie sur un monde googlisé où la vie privée n'existerait plus. Le projet 30 Days, 30 Songs, 30 Days se propose de dévoiler un titre chaque jour pour barrer la route à Donald Trump, soit jusqu'au 8 novembre. Vous pouvez suivre l'initiative sur le site www.30days30songs.com. L'actualité, comme chaque semaine, au début de cette émission, avec vous ce soir, Solveig Godeluc, journaliste et auteur de Xavier Niel, La voix du pirate, publié chez First. Mm-hmm. Mais juste avant d'évoquer votre livre, revenons sur deux points d'actualité. Pour commencer, cette attaque, on pourrait presque dire cette méga attaque, qui a été très élaborée, qui a mis à bas, si on peut dire, qui a stoppé pendant plusieurs heures un certain nombre de sites très importants aux États-Unis. Une attaque très élaborée. Que s'est-il passé exactement?
Alors c'est ce qu'on appelle un déni de service distribué, c'est-à-dire qu'on prend des machines informatiques, on prend le contrôle sur ces machines qui deviennent des zombies. En fait, on trouve des failles dans leur code et tout d'un coup, on se met à les commander et on dirige cette armée vers un site qu'on veut faire tomber, vers une application qu'on veut faire tomber et sous le poids de toutes les requêtes,
en l'occurrence des millions, des dizaines de millions.
C'est des millions et ça se compte en 1 terabit par seconde de données, ce qui est juste énorme. Hein. 1000 gigas, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Donc le site ne peut plus résister à cet flux de données et ils tombent par terre.
En l'occurrence, c'était le cas pour Twitter, mais aussi pour Netflix,
eBay. Voilà. En fait, c'est pas directement Twitter, PayPal, etc. qui ont été visés.
Alors, c'est une société intermédiaire qui s'appelle DYN, D-Y-N,
voilà.
qui redirige sa spécialité, c'est de rediriger les flux Internet, notamment avec les...
C'est un peu comme un annuaire, en fait. Hein. C'est un site annuaire qui connaît les adresses de tous les sites web importants et à qui on a délégué la gestion de l'adressage. Donc, en fait, ça veut dire que c'est des plateformes qui peuvent être énormes. Donc, celle-ci, je ne sais plus combien de du web, ça faisait, c'était pas si énorme que ça, ça devait être 5 à 10%, mais c'est quand même des très grands noms. Et quand ça tombe par terre, on s'en rend compte dans le monde entier, enfin surtout aux États-Unis. Hein. En France, on l'a moins vu, mais aux États-Unis, c'était juste impressionnant. Parce qu'on a eu plein de sites de médias aussi qui sont tombés par terre.
Hein, le New York Times, etc.
Voilà.
On dit que le premier ministre français était prêt à tweeter, il n'a pas pu tweeter, du coup, etc. Donc cette attaque qui était concentrée sur cette société DYN, qui gère notamment les dons de domaine, vous l'avez dit, qui dirige au fond un grand gestionnaire de trafic. Comment est-ce que c'est possible qu'on arrive à stopper une société comme ça?
Alors, c'est là que ça devient vraiment impressionnant et que ça fait un petit peu peur. Hein. Il y a eu d'ailleurs des alertes ces derniers mois pour dire attention, il est en train de se passer quelque chose avec l'Internet des objets. Parce que les fameux ordinateurs zombies qui sont venus et qui sont tombés en masse sur ces sites web ne sont pas des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau. Ce sont des webcams, des imprimantes, des thermostats connectés. Donc ça, c'est l'Internet des objets.
Des routeurs ?
voilà, c'est, en fait, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer que quand on aura tous des brosses à dents connectées ou des fourchettes connectées ou des piluliers connectés,
les fourchettes vont attaquer, les brosses à dents vont attaquer.
Et des vêtements connectés, puisque tout ça, on nous le promet, ça va arriver. Ou alors les voitures, hein, qui sont de
plus en plus connectées.
Mais on savait
depuis longtemps que la multiplication de ces appareils connectés rendait plus vulnérables les réseaux. On n'a rien fait pour éviter ça.
Comment dire? C'est toujours difficile parce que là, en fait, il y a une multitude d'acteurs aussi qui développent tous ces petits objets. Et leur préoccupation première, c'est peut-être plutôt le coût. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vont mettre des mots de passe qui vont pas être très, très sûrs, qui vont pas être très compliqués, qui vont être par défaut toujours les mêmes. Et alors, il y a des logiciels spécialisés. Et celui qui a fait tomber Dean, c'est un logiciel qui est accessible gratuitement sur Internet. N'importe qui d'autre.
Qui s'appelle comment?
Qui s'appelle Mirai. N'importe qui d'autre pourrait s'en servir aujourd'hui pour venir faire tomber d'autres sites. Alors, donc ces logiciels, ils vont chercher, ils vont fouiller sur Internet où est-ce qu'il y a des failles. Et quand ils trouvent une faille de mot de passe, hop, ils s'emparent de l'appareil.
Alors vous dites n'importe qui, mais qui se cache éventuellement derrière ces attaques?
Ah, ça, c'est le grand mystère. On aimerait tous le savoir. Des enquêtes ont commencé et on va essayer de retrouver ça. Mais moi, je ne peux pas vous dire.
Il y a des rumeurs qui ont été faites aux États-Unis. Les spécialistes de ces questions, aujourd'hui au plus haut niveau, hein, c'est-à-dire le vice-président américain s'est exprimé, ainsi que les spécialistes de la sécurité nationale et de la cybercriminalité, pointent que c'est tellement sophistiqué que c'est très, très lourd moyen, peut-être même d'un État.
Et
ont été cités le nom de la Russie et de la Chine.
Voilà, effectivement, c'est comme ça que se règlent pas mal de conflits géopolitiques aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est très difficile de le savoir, hein, puisque ces outils, ils sont à libre disposition pour n'importe qui. Donc effectivement, l'attaque est sophistiquée, mais on peut se resservir de ce logiciel pour aller faire d'autres attaques.
Une des inquiétudes, et le vice-président Joe Biden s'est exprimé, le vice-président américain, à ce sujet, en menaçant même directement et en la nommant la Russie, au cas où les élections, en l'occurrence qui ont lieu le 8 novembre, seraient perturbées. Est-ce que ce n'est pas une répétition? Est-ce que ce n'est pas une préparation? Le Parti démocrate a déjà été attaqué récemment. Est-ce que ce n'est pas une préparation pour ces élections? Le vice-président a dit, nous sommes capables de lancer nous aussi une attaque, donc une sorte de menace contre la Russie, le cas échéant. Est-ce que ça peut faire boule de neige de ce point de vue?
Oui, tout est possible. Alors, les attaques d'État ou alors l'espionnage d'État, les Américains nous ont montré qu'ils étaient capables de le faire chez nous, hein, assez récemment tout de même, je vous rappelle. Donc oui, ça pourrait dégénérer, mais un peu partout dans le monde, les États se préparent à ces cyberguerres.
Alors, autre question, et c'est presque sans transition. On a appris tout récemment, en fin de semaine, que l'opérateur télécom historique, d'ailleurs, AT&T, qui était le sort de France Télécom dans l'histoire des États-Unis, allait racheter Time Warner. Time Warner, c'est quoi aujourd'hui?
Alors, Time Warner, c'est Warner Bros, donc les films,
les studios, énorme en l'occurrence, studio Harry Potter, Batman,
voilà,
Matrix,
toutes ces choses-là. C'est aussi HBO. Alors HBO, ça nous dit peut-être pas grand-chose
en
France.
La chaîne de télévision.
Mais
hein.
Voilà,
le
derrière
Canal
HBO,
plus américain.
Derrière HBO, il y a Game of Thrones. Ça vous parle peut-être un petit peu plus parce que ça, c'est quand même une machine à cash assez impressionnante qui continue à tourner aujourd'hui. On attend avec impatience la prochaine saison.
Il y a aussi CNN.
Voilà. Donc c'est quand même des très gros médias, des très grosses.
Et puis d'autres choses, notamment DC Comics, hein, Superman, Batman, voilà, etc. Mais pas de network, pas de câble. Alors pourquoi AT&T, opérateur de télécom, rachète-t-il Time Warner?
Alors c'est assez drôle parce que juste en fait AT&T c'est un opérateur télécom qui est énorme, hein, ça vaut 225 milliards de dollars en bourse, c'est juste monstrueux, qui a grandi par rachats successifs, des petites belles compagnies et au fil des ans, chaque année une énorme acquisition, en général tout le temps dans les télécoms. Et puis ça a commencé à changer un peu dernièrement puisqu'ils ont acquis DirecTV qui est déjà la première acquisition dans les contenus, et là ils vont un cran plus loin, mais vraiment plus loin. Une acquisition à 85 milliards, c'est quand même un énorme morceau. Et c'est d'ailleurs assez drôle de voir que ce qu'ils rachètent, Time Warner, était déjà une entreprise qui avait défrayé la chronique en 2000 quand AOL l'avait racheté. À un moment, ça s'appelait AOL Time Warner.
Ce n'a pas été le plus grand succès de l'histoire.
Ça n'a pas été une grosse réussite, effectivement.
Pour terminer sur ce sujet, il y a un risque malgré tout que le régulateur américain, notamment la Federal Communication Commission, s'oppose à ce rachat, comme elle l'a fait dans d'autres cas, vous pensez?
Oui, il y a quand même un risque assez important, bon, parce que vous voyez que maintenant, il y a vraiment des mastodontes qui s'intègrent verticalement dans les télécoms. Donc je veux parler d'AT&T et de Verizon, qui sont juste des entreprises qui sont énormes et qui sont surtout toutes puissantes localement, c'est-à-dire que généralement elles n'ont plus trop de concurrence au plan local dans chaque État, et qui sont en train, comme si en fait il n'y avait plus de proie dans les télécoms, et qui sont en train maintenant d'aller horizontalement, c'est-à-dire d'aller acheter les médias, les contenus, là où il y a de l'argent aujourd'hui.
Alors Solveig Godeluc, vous êtes également auteur de Xavier Niel, La voix du pirate aux éditions First, un ouvrage qui paraît...
Je suis co-auteur, hein, je signale.
Co-auteur, avec justement, j'allais le dire, avec Emmanuel Paquette, chroniqueur de cette émission. Vous avez co-écrit ce livre. Alors on parlait à l'instant de AT&T qui rachèterait Time Warner, mais on voit aussi en France Numéricable, SFR, de Patrick Drahi qui a racheté BFM TV, RMC, L'Express, Libération, et puis Free en l'occurrence, Xavier Niel, patron aussi, à titre personnel certes, malgré tout patron, d'un certain nombre de médias, à commencer par Le Monde, Le Nouvel Observateur ou Télérama. Alors venons-en à votre livre. Xavier Niel, comment expliquer ce personnage? Ce personnage, vous dites d'ailleurs, balzacien. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce personnage balzacien?
Alors, ce qui est d'abord fascinant, c'est que c'est quelqu'un qui ne se livre pas. C'est-à-dire qu'on le voit assez régulièrement dans les médias. Il est le Robin des Bois, des télécoms, l'homme qui a redonné du pouvoir d'achat avec le mobile, avec Free Mobile, à 2 euros ou à 20 euros, qui a tout cassé sur le marché. Il est volontiers provocateur. Il rentre vraiment dans ses concurrents et il les énerve profondément. Donc, c'est quelqu'un qui se donne en public au moment où il fait du business, mais qui finalement ne dit jamais rien sur lui. Il déteste. Il déteste qu'on aille dans sa vie privée.
Alors d'ailleurs, ça a été difficile. Il y a eu des tentatives, des menaces, un peu presque des procès. On ne savait pas trop s'il allait parler. Finalement, il a parlé, mais en off. Vous ne pouviez pas parler. Alors, à son père, vous racontez
procès,
tout ça. Finalement,
procès,
vous avez pu.
Pour le livre, hein.
C'était pour d'autres articles, mais déjà, ouais. Vous étiez dans son collimateur. Comment vous avez pu faire cette enquête?
Alors d'abord, il a justement une relation un petit peu ambiguë avec les gens, c'est-à-dire que il m'a fait un procès à un moment, j'ai été mise en examen pour diffamation à un moment.
Et finalement,
où
il a retiré sa plainte.
Ouais. Et puis finalement, il a retiré sa plainte. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, hein, qui distribue les assignations assez facilement, mais ça l'empêche jamais de garder le contact avec les gens. C'est-à-dire qu'il a toujours deux fers au feu. Il tranche pas avec les gens. Il veut être au courant de tout.
Au fond, c'est un pirate. La voix du pirate, c'est le titre du livre.
C'est un pirate.
Pourquoi est-ce que vous avez intitulé et choisi ce titre de livre?
Pour plusieurs raisons. D'abord, pirate, parce que au départ, c'est le code, son truc à lui. Donc,
c'est
le pirate informatique, c'est le hacker.
C'est sa culture, la culture du hacker.
Exactement, c'est plus sa culture que sa pratique, parce que effectivement, il a fait ça un petit peu au début, et puis aujourd'hui, c'est pas ça qui l'intéresse. Hein. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est devenu un hacker de notre société et de notre économie plus globalement.
Notamment avec Free,
hacker dans
en
le sens de celui qui déconstruit, qui voit quel est le code derrière et qui essaye de s'en servir, de se servir des failles pour reconstruire autre chose. Et c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est pirate aussi, un peu de la grammaire des affaires, comme disait Thierry Breton.
On entend souvent dire que Xavier Niel a commencé, ou sa carrière en tout cas, fait fortune avec le Minitel Rose, ses détracteurs le surnomment le pornocrate. Quelle est la vérité?
C'est l'un de ses vieux surnoms. Oh bah c'est la vérité, mais il s'en cache pas vraiment, à vrai dire.
Bon,
il en a un petit peu marre qu'on parle tout le temps de cette époque-là, avec parfois un petit peu de dégoût, de manière un peu moralisatrice. Mais vous savez qu'il y a énormément de gens très très bien qui ont fait plein de choses dans le Minitel Rose. Ça a été une école du business incroyable pour tous les entrepreneurs d'Internet aujourd'hui. Donc effectivement, il a fait du Minitel Rose et du rose même assez salé. Hein. Il est assez
le
loin,
rose
on
salé.
Le montre.
Du rose très
du rose
très
fuchsia.
Rouge.
Fuchsia, on va
C'est
dire.
Une biographie non chronologique que vous signez, donc Xavier Niel, la voix du pirate. Quelles sont vos principales découvertes, à la fois pittoresques et peut-être plus fondamentales?
Moi, ce que je cherchais, c'était vraiment quel était le moteur, le ressort profond de cet homme. Je lui ai posé la question plusieurs fois quand je suivais les télécoms aux Échos. Je disais, mais finalement, pourquoi vous faites les choses? Et j'avais été fascinée de voir qu'il répondait dans une émission de télévision, qu'il répondait qu'en fait, il avait toujours aimé l'argent et qu'il voulait devenir très riche. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est un vrai moteur? Enfin, c'est quand même un homme sensible.
Un gamin de Créteil, devenu pour le coup milliardaire.
Oui. Alors il n'était pas pauvre, il était modeste, mais il n'était pas pauvre du tout.
Aujourd'hui, hein. Il est vraiment milliardaire.
Mais voilà, aujourd'hui, il est multimilliardaire, hein, à peu près 8 milliards. Enfin,
qu'est-ce qui le fait courir alors?
Qu'est-ce qui le fait courir? C'est ça que j'ai cherché. Est-ce que c'est vraiment l'argent comme il le dit? Ou est-ce qu'il est trop pudique pour dire autre chose? Mais je crois que tout simplement, il a vraiment énormément d'ambition. Il a envie de montrer aux autres de quoi il est capable. Et c'était un gamin qui était un petit peu timide, renfermé, mais très résolu.
Ouais, qui n'aimait pas l'école. Éternel adolescent, mais, qui refusait les diplômes.
Mais en même temps, une énorme confiance en soi qui vient, je le pense, parce qu'on a rencontré des gens de sa famille, sa sœur, son père, qui vient du fait qu'il a une famille extraordinairement aimante, une famille très soudée, qu'il continue à voir très régulièrement, qui est un petit peu c'est les seules personnes au monde dans lesquelles il puisse avoir confiance, lui qui est un petit peu parano, angoissé.
Voilà. La politique, on dit que Xavier Niel n'a jamais voté, il a investi dans des médias qu'on peut plutôt qualifier de gauche, on l'a dit, Télérama, Le Monde, Le Nouvel Observateur, et dont il est le patron, l'un des copatrons, plutôt à gauche donc, et en même temps, il n'hésite pas à supprimer des emplois par centaines, il agit par rationalité économique. On le situe
oui,
où ?
Alors l'histoire de supprimer des emplois, la gauche, la droite, je vous laisse à vos considérations, mais
tout
c'est pas
ça
si
n'est
clair
pas très
que
important
ça
pour
de
lui.
Nos jours. On ne sait plus très bien, hein, vous savez.
Enfin, en même temps,
voilà, je crois que c'est avant
pas un
tout
patron
un homme
de
d'affaires.
Gauche.
Lui dit de toute façon qu'il n'est d'aucun bord politiquement. Donc effectivement, il a investi dans des médias de gauche, mais il est arrivé aussi d'investir dans des médias de droite sur Internet, puisqu'il a pris des participations dans de très nombreux titres de presse, je crois qu'il était dans Atlantico, il investit partout. Son idée à lui, c'est qu'il faut défendre la liberté de la presse et il distribue ses billes aussi, c'est une manière de se placer,
oui,
d'être
investi,
connu de tout le monde.
Vous le disiez, dans des milliers de start-up, c'est lui qui lancera début 2017 la Halle Fraissinet, donc il va accueillir une sorte de être devenir une sorte des plus gros incubateurs au monde. Par ailleurs, il a fondé l'école 42, école justement qui n'est une école où on rentre sans diplôme.
Une école de codeurs où on n'a pas besoin d'avoir le bac, où on n'a pas besoin de connaître.
Qu'est-ce que tout ça nous dit à travers son parcours de la France?
Alors lui, il se sent profondément français. Par exemple, quand on lui dit « mais vous investissez dans la Silicon Valley, pourquoi vous partiriez pas ?» il dit « mais non, mais j'aime mon pays, j'ai envie d'y rester ». Il a même fait quelques déclarations tonitruantes sur le ton de « la France est un paradis fiscal, c'est génial d'investir ici ». Bon, il n'y en a pas beaucoup des patrons français qui disent ça, hein, français ou étrangers d'ailleurs. Hein, je crois que ça fait rigoler autour de la table. Donc il se sent profondément français, il aime ce pays et il a envie de rendre à ce pays un petit peu de ce qu'il lui a donné.
En lisant l'ouvrage, on découvre que Xavier Niel jouit d'une belle cote de popularité aussi à l'international. Et pour terminer, peut-être, j'aimerais vous demander, on a vu que le magazine Wired avait publié son classement des personnalités les plus influentes au monde. Et Xavier Niel se retrouve en 14e position, ce qui n'est pas rien au niveau mondial. Global Niel ?
J'avais pas vu ça.
Global Niel, finalement.
Global c'est... Niel, oui, effectivement. Alors, on a tout un chapitre là-dessus. Enfin, on a plusieurs chapitres. Il y en a un qui parle notamment de ses amis de la Silicon Valley. Alors, il a une véritable fascination pour ces entrepreneurs, des licornes, vous savez, ces sociétés qui sont valorisées plus d'un milliard de dollars de la côte ouest. Donc, les patrons de Uber, de Airbnb, tous ces gens-là, quand ils viennent à Paris, ils viennent le voir. Et lui, il fait le tour opérateur pour eux. Donc, il va leur présenter... Il leur fait visiter les catacombes, parce que les catacombes, c'est son petit secret à lui, c'est l'endroit qu'il aime bien. Il leur fait visiter aussi les palais de la République, il les emmène dans
à la FIAC ce week-end, au Grand Palais, au Petit Palais peut-être.
À la FIAC, exactement. Donc ça, c'est vraiment
parce que
c'est son
aussi,
truc à lui.
Il y a aussi une vie personnelle liée à son épouse, sa compagne.
Voilà, c'est pas donc sa compagne, effectivement, Delphine Arnault.
La fille
De Bernard, le bien connu multimilliardaire lui aussi. On reste entre milliardaires.
Patron de quoi ? Patron de quoi ?
Ah bah de LVMH, le groupe de luxe bien connu.
Xavier Niel, donc cet éternel ado rebelle qui tutoie le pouvoir, Solveig Godeluc avec Emmanuel Paquette. Vous signez Xavier Niel, La Voix du Pirate. C'est publié aux éditions First. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
This is a story of long, long ago.
Yo, another day, another dollar. We live legendary. Travel the world by any means necessary. Fresh wallabies, black suede, Gucci roll. X marks the spot, not travel the globe. Hit the road, splash the universe, universally. They call me liquid ghost, I move like mercury. No hurting me, I burn to the third degree.
How much did it take to burn that formula?
Purposely, I reveal the features. My road dogs walk, I got goons in the bleachers. To each his own, I flip like a 90s phone. Fuck around, you catch stalks in your time zone. Slaying mice in my Wu-Tang trilogy. 36 to Cuban links, it's all pillage, B. You know the history, burn like patisserie. Clan in the front, chest boxing is the mystery.
Clan in the front, the goon.
français Wax Taylor dans Soft Power sur France Culture en direct avec le titre ce soir Worldwide, c'est en bon français, avec un invité sur ce morceau, un guest star donc, le rappeur new-yorkais Ghostface Killah. Ce morceau est extrait du dernier album By Any Bits Necessary qui vient tout juste de sortir.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nous sommes en direct 19h25 avec Jennifer Flay, directrice de la FIAC, Mario Tavella, PDG de Sosby France, et par ailleurs Martine Robert, journaliste aux Échos, pour une émission ce soir consacrée assez largement au marché de l'art. Jennifer Flay, la FIAC se termine ce soir. Une édition, 43e édition, plus de 186 galeries étaient là. En quelques mots, quelles ont été les innovations que vous avez apportées à cette FIAC cette année, que vous avez revitalisé ces dernières années, et est-ce que vous êtes contente du bilan qu'on peut peut-être tirer déjà ce soir?
Oui, alors déjà, il y avait cette année une nouvelle géographie complètement différente qui était proposée avec un nouveau secteur on-site au Petit Palais. Donc, à la fois en dialogue avec les collections permanentes et dans les salons sud, dans le jardin même.
Donc le Grand Palais sur l'avenue Wilson et le Petit Palais en face.
Bien sûr, et ce qu'il y a entre les deux, l'avenue Winston Churchill, que nous avons voulu piétoniser, en fait, non pas simplement pour le confort de notre public, mais pour
créer une ambiance.
Créer une ambiance et pour reprendre l'espace public, pour le réinvestir, cet espace public qui est... un peu assiégé, n'est-ce pas?
Donc
à
la
Paris.
FIAC s'est élargie, on vendait des crêpes, des merguez, enfin, il y avait toute une petite fête.
il y avait aussi des œuvres d'art.
Vous les avez vues,
oui. Les œuvres, il y avait aussi une œuvre très importante de Jacques Villeglay qui citait une phrase de Henri Michaud, « L'art est ce qui aide à tirer de l'inertie. »
Et puis le Alain Bublex, c'est le pavillon des points de vue où on pouvait monter et voir d'un
voir
côté
justement
le
nouveau
petit palais
de vue.
Et de l'autre
absolument.
La scène.
Cette nouvelle géographie qu'on essaie de dessiner entre le Petit Palais et jusqu'au Palais de la Découverte, parce que les portes entre le Grand Palais ont été ouvertes à cette occasion et on pouvait passer lors de soirées de performance du Grand Palais au Petit Palais, ce qui n'avait pas été fait depuis plusieurs décennies.
Alors on a vu notamment au Petit Palais de très belles œuvres. Je pense à celle de Marcel Duchamp, œuvre formidable. Dans une petite valise, il accumule au fond des copies, des reproductions à lui, qu'il refait de ses œuvres principales, complétées. Un très beau Damien Hirst, en l'occurrence, où il analyse le corps d'un ange.
Un ange déchu, en fait.
Déchu,
l'iconographie de l'ange déchu, mais mêlée avec celle du mannequin anatomique où on révèle une partie de l'anatomie d'un corps, en fait.
C'est la première fois que vous voyez l'intérieur d'un ange, j'imagine.
Ah, c'est la première fois que je vois les fesses d'un ange, parce que c'est une sculpture et on peut tourner en tour.
Alors ça, c'est
un très joli point de vue.
Tout ça, c'est gratuit, on pouvait y aller gratuitement.
Bien
en
sûr.
Même temps, la FIA coûte 35 euros. C'est plutôt cher. Comment se passe cette dualité? Il n'y a pas moyen de faire une entrée moins chère pour qu'un événement qui veut être un peu grand public, alors même que c'est pareil un endroit où on achète des œuvres, où on...
Écoutez, il y a une jauge au Grand Palais qui fait que, de toute façon, on ne peut avoir qu'un certain nombre de
donc,
personnes.
Donc, par le prix, on limite le nombre de...
ça peut être ça, oui, parce que si le billet est à 5 euros, il y aurait un queue le long des Champs-Élysées et ça serait très frustrant, pas gérable, absolument.
Donc,
pas
le Petit
gérable.
Palais est gratuit, le Grand Palais
est payant. Le Petit Palais est gratuit, le Jardin des Tuileries où on présente des œuvres très importantes et depuis maintenant 10 ans est gratuit. C'est notre site historique pour les projets hors les murs. Et puis la place Vendôme, que vous allez pouvoir continuer à visiter jusqu'à la mi-novembre avec une importante, très importante installation de Hugo Rondinone, des sculptures monumentales qui vraiment est très, je crois, inspirante puisqu'il s'agit là de l'homme debout et de la paix également.
Martine Robert, journaliste aux Échos.
Alors Jennifer Flay, c'était la FIAC de tous les dangers cette année, oui. Avec le climat des attentats, avec le recul du marché de l'art contemporain, oui. Assez spectaculaire depuis un an. Oui. Finalement, globalement, ça s'est plutôt bien passé. À quoi vous l'attribuez? Est-ce que c'est effectivement tous ces effets de surprise que vous avez préparés? Est-ce que c'est la résilience du marché français qui est moins spéculatif que d'autres?
Je pense que c'est un peu de tout ça. C'est vrai que nous avons, tout au long de l'année, pensé à ce que nous pourrions apporter pour créer de la surprise, de l'énergie, pour donner une sensation de puissance et de liberté en même temps à cette foire. Mais ce n'est pas quelque chose de faux. En fait, vous avez raison, il y a une vraie résilience dans le marché de l'art français. Il y a des acheteurs à tous les niveaux de la société, à partir de Bernard Arnault, dont il a été question tout à l'heure, et bien sûr François Pinault, mais jusqu'à à l'employé de l'agence de pub qui
va s'acheter un Damien Hirst pendant le week-end au Petit Palais.
Peut-être pas tout de suite, mais qui paye dans des mensualités des œuvres de jeunes artistes qu'il aura admirées à l'étage du Grand Palais, dans le secteur Lafayette, par exemple.
Les œuvres sont un peu moins chères, et parfois.
Oui, etc. Les jeunes artistes, on peut acheter une œuvre importante d'un jeune artiste.
Alors, puisqu'on parle de prix relativement bas, à vos côtés, Mario Tavella, PDG de Sotheby's France, chez vous, c'est encore meilleur marché. C'est ce qu'on appelle aussi le deuxième marché. Vous êtes patron de Sotheby's. D'abord, Sotheby's, ça sert à quoi, Sotheby's, pour celui qui ne connaît pas le rôle des maisons?
Des maisons aux enchères. Mais je pense que en parlant en effet des galeries à la FIAC et des maisons aux enchères, les rôles des maisons aux enchères est vraiment très très important parce qu'ils travaillent à côté des galeries.
Complémentaires donc.
Complémentaires. Nous traitons la seconde main, on dit en français, je crois.
Donc le premier marché,
c'est avec les galeries. Voilà. Et nous traitons des artistes qui sont déjà affirmés.
Qui en fait ont déjà été vendus une première fois souvent.
Voilà.
Et sont revendus aux enchères.
Exactement.
Chez vous.
Parfois, les mêmes artistes, on peut les voir aussi à la FIAC ou au Frise à Londres. Mais nous ne vendons pas les très, très, très jeunes artistes que j'ai vus à la FIAC, à l'étage, en effet, et très bien exposés.
Vous commencez par des estimations assez basses, souvent, et puis ensuite, ça monte. Comment ça se passe?
Ça dépend vraiment. On a aussi, il faut dire qu'on a aussi une fonction chez les maisons aux enchères. On est très transparent parce que les prix sont publics et nos prix sont des grandes utilités aussi pour les galeries et parfois on est vu aussi comme des modérateurs des marchés parce que même si des prix atteignent des niveaux très très élevés. Parfois, nous arrivons à estimer d'une façon plus raisonnable. Après, s'il y a trois enchères au téléphone, c'est l'enchère. Et c'est notre business aussi.
Martine Robert.
Peut-être, oui, quand même, juste situer les choses. Le marché de l'art mondial, c'est 63,8 milliards de dollars. Ce n'est pas un grand marché, en fait. Hein. Et là-dessus, en gros, c'est 50% les galeries. Hein, et puis, 53% exactement les galeries. Et le reste, c'est les maisons de vente aux enchères. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la part que l'art contemporain a pris aujourd'hui dans les foires et dans les maisons de vente. Hein, c'est 46% en valeur du produit des ventes aux enchères qui correspond à de l'art contemporain. Si on ajoute l'art moderne, c'est 76% à peu près. Alors comment vous expliquez cet engouement pour l'art contemporain qui se vérifie dans vos deux cas, hein, dans les foires et dans les maisons de vente?
Dans les maisons, oui. Bon, je crois vraiment qu'on a assisté à un changement de goût radical près de nos clients. Si vous allez dans tous les hôtels du monde, dans tous les magasins, tout est minimal, tout est moderne, tout est contemporain. Tu rentres à la maison et tu vois un endroit, un salon Louis XV ou Louis XVI et tu as envie d'échanger, au moins de mélanger les catégories. Et c'est pour ça, j'ai lu sur un rapport qu'il y a 10 ans, il y avait 26 foires d'art contemporain et aujourd'hui, on a 260 foires d'art contemporain. contemporaine et moderne.
On fait ça aussi à Versailles avec des expositions et à la FIAC en l'occurrence, puisque au Petit Palais, vous aviez à la fois les collections permanentes, l'exposition Oscar Wilde et là, ici ou là, des œuvres, on l'a dit, de Marcel Duchamp, de Damien Hirst, d'autres qui étaient mêlées comme ça dans le jardin ou parmi
de
les
Bertrand
œuvres.
De Bertrand Lavieille, oui. Moi, je pense que c'est extraordinaire de penser qu'aujourd'hui, l'art contemporain a rencontré le public en même temps qu'il est créé. Rencontre le public en même temps qu'il est créé. Il y a toujours cette mythe romantique de l'artiste dans son grenier qui attend 50 ans ou peut-être même de mourir avant d'être vu ou connu. C'est terminé. Je crois que la création maintenant rencontre son public plus ou moins dès la sortie de l'atelier, dans la plupart des cas, et c'est un très beau changement.
Alors je vous propose d'écouter un député français, François de Mazières, député apparenté Les Républicains. Il est intervenu en mars dernier à l'Assemblée pour interpeller la ministre de la Culture sur le marché de l'art. Et là, on est sur la question des capitales, on va y revenir, des capitales de l'art, et notamment entre Paris et Londres. Écoutez-le.
C'est le combat entre la place de vente de Londres, notamment, et Paris. On a tout intérêt à défendre, évidemment, le marché de la vente des objets d'art et des biens qui sont malheureusement exportés hors de France, la France étant, comme vous l'avez rappelé, une des terres qui fournit le plus d'objets d'art dans le monde. 350 millions chaque année sont exportés, c'est une somme absolument colossale. Et donc, au moins, on voulait que ça soit vendu sur la place de Paris. Pourquoi ? Parce que la mécanique est simple. Dans le monde de l'art, on sait que les grands propriétaires d'objets d'art qui ont des grosses fortunes, regardent là où ça va se vendre le plus cher. Et donc, si on vend des objets d'art, si on les vend, on a intérêt à les vendre sur la place de Paris, parce qu'on va crédibiliser la place de Paris.
À l'instant, s'exprimait le député apparenté Les Républicains, François de Mazières, une comparaison entre Londres et Paris, sujet clé. Vous connaissez tous les deux très bien, Jennifer Flay, directrice de la FIAC, Mario Tavella, PDG de Sotheby's. Vous avez vécu longtemps en Angleterre, bien que l'un de vous soit italien et l'autre néo-zélandaise. Il y a, depuis le Brexit, ce débat. Est-ce que Londres, qui est une capitale, sinon la capitale de l'art, avec peut-être New York, est-ce que pour la France, ce Brexit, ces évolutions peuvent et comment se traduire par, disons, un rééquilibrage au profit français? C'était en tout cas le débat du député. Alors, je vois que vous voulez que ce soit l'autre qui parle, qui s'exprime.
Non, en fait, je crois qu'on est tous un peu réticents à s'exprimer
c'est
sur ce
tôt,
sujet,
oui.
Parce que c'est trop tôt. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Il y a à la fois beaucoup d'inquiétude de la part de nos collègues britanniques quant aux effets du Brexit sur le marché et de manière générale. On dit que la place de Paris sera renforcée par le Brexit. Moi, j'aimerais mieux que nous ne comptons pas sur des phénomènes extérieurs pour renforcer notre place.
Mais alors, quelles sont les différences, peut-être, Mario Tavella, vous qui connaissez bien les deux pays, c'est dans les deux cas des villes de culture, mais pas du tout les mêmes. Et ces marchés sont assez différents, finalement, Londres et Paris.
Oui, et après, j'aimerais aussi dire une des choses sur le Brexit aussi. En retournant sur le Brexit, en effet, on a terminé les ventes contemporaines et modernes à Londres. Et il faut dire qu'on n'a pas du tout entendu l'effet Brexit. La chute de la livre, en effet, a aidé les ventes à Londres qui ont eu un taux des vendus magnifique à 90%. Et en général, les ventes marchent à 135 hammer, marteaux. Ça veut dire qu'on n'entend encore pas l'effet du Brexit. Et j'aimerais ajouter, c'est vrai, on parle, peut-être, en Angleterre, on va avoir un taxe à l'importation, ça peut vraiment créer un problème. Mais par contre, peut-être l'Angleterre va faire tomber les droits de suite.
Par rapport à la France.
La fiscalité par rapport à la France.
C'est quoi le droit de suite, peut-être, Martine Robert, précisément? quasiment, ou peut-être vous,
c'est Mario Tavella. Un droit qui on obligé, c'est une taxe, en effet, qu'on obligé à payer.
Sur la revente, en fait.
Sur aux héritiers de l'artiste.
C'est en fait quand un tableau est revendu, l'artiste continue à percevoir un petit peu quelque chose. Voilà. Alors que si c'est
comme
juste
un copyright, un peu. Sur la durée. Vraiment, voilà.
Il y a des différences aussi en termes d'immigration, en termes d'argent, en termes de, comment dire, même de type de culture entre ces deux villes qui ont aussi beaucoup d'impact. Le Commonwealth d'un côté, le rapport au monde arabe ou au monde plutôt indien, pakistanais de l'autre, etc.
Je dirais qu'à Londres, il y a une communauté qui est forcément encore plus internationale qu'à Paris. Mais si on parle de l'art contemporain en particulier, le marché de Londres est beaucoup plus spéculatif, on prend plus de risques. À Paris, j'ai vu, et même à la FIAC, que j'ai adoré, j'étais habitué à visiter Frise tout le temps, et maintenant je visite FIAC, bien sûr. J'ai vu une foire beaucoup plus classique, et avec des artistes aux enchères à Paris, comme Soulages, Ontaï, Zouaï, qui on ne vend pas à Londres, on vend des artistes beaucoup plus internationaux.
Jennifer Offley.
Oui, c'est une culture très très différente. En France, on a l'habitude de la collection. Le fait de collectionner est vraiment inscrit dans les mœurs. À Londres, il y a très peu de collectionneurs d'art contemporain. C'était surtout le monde de la finance qui drive le milieu de l'art. Très peu de familles qui ont depuis 3 ou 4 générations l'habitude de collectionner.
Non, mais il commence maintenant quand même.
Martine Robert.
Il a commencé déjà.
Malheureusement, souvent, le marché de l'art, il est connecté, corrélé à l'économie du pays. La France était le premier marché de l'art au monde dans les années 60. Aujourd'hui, elle pèse à peu près 6% du marché mondial, 4% si on prend l'art contemporain. Mais on est dans un cercle vicieux, et j'aimerais vous faire réagir là-dessus, c'est que finalement les maisons de vente ont une stratégie maintenant, effectivement, de vendre là où les œuvres sont susceptibles d'obtenir les meilleurs prix, donc en haut du panier New York, ensuite Londres,
et après
Paris, voilà. Et du coup, ça amplifie, ça, c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que c'est de plus en plus difficile pour Paris d'exister face à Londres, en Europe et évidemment aux États-Unis.
Mario Tavella, vous venez d'évoquer quelques noms. Les capitales aujourd'hui de l'art contemporain, on sait que Art Basel, Suisse en l'occurrence, est aussi à Miami et Hong Kong. La Fritz, c'est Londres et New York. TFAF, c'est New York. Dubaï est une capitale, etc. Comment cette cartographie évolue et peut-être ensuite, Jennifer Flay, vous avez aussi essayé d'ouvrir la FNAC à d'autres capitales, notamment Los Angeles, avec des difficultés.
Mario, je ne suis pas du tout. Alors, je ne suis un expert en foire, en effet, parce que j'ai travaillé pour une maison aux enchères, mais...
C'est malgré tout des capitales,
oui, non, bien sûr, mais je ne suis pas du tout surpris qu'il y a des foires partout, parce que si je regarde à l'origine de nos acheteurs, qui proviennent des 70 pays, une fois, on avait des acheteurs qui venaient des 30 pays. Maintenant, il y a une richesse qui est tellement éparpillée par tout le monde.
Qu'on en a quoi, 50, 60
mais 70, on arrive même à 100. Et après, ils sont 70 pays qui achètent, mais 100 pays participe aux enchères. Et après,
donc c'est vraiment la globalisation.
La globalité. Et c'est pour ça qu'on a répondu, j'imagine, en créant des foires globales, régionales et boutiques entre Londres, Paris...
Jennifer, vous avez essayé, en l'occurrence, d'essaimer, hein, une espèce d'essaimage. Or, la FIAC, pour l'instant, n'est pas présente dans beaucoup d'endroits. Il y avait eu la tentative Los Angeles, ça a été difficile. Vous visez d'autres villes, comment ça peut se passer, hein?
Écoutez, nous, on regarde, bien sûr, de nouveaux territoires, mais...
Par exemple,
on regarde
Dallas,
l'Amérique du Sud. Mmh. On regarde des villes aux États-Unis qui sont peut-être pas connues jusqu'ici.
Dallas,
comme étant
par exemple.
Des centres. Je pense que le Texas est très intéressant et depuis longtemps. Et puis bien sûr l'Asie. La FIAC dans cette nouvelle version atteint une forme de maturité dans laquelle je pense qu'elle peut s'exporter avec succès.
Et pourquoi elle a échoué finalement à Los Angeles?
Je c'était vraiment une ressenti de la part de nos exposants, de nos futurs exposants, que le lieu choisi n'était pas la bonne. Donc, je dirais une manque de connaissance, peut-être une connaissance insuffisante de la ville et de ses mécanismes.
Martine Robert.
Oui, je voudrais revenir sur ce phénomène de globalisation dont vous parliez, qui va de pair évidemment avec une concentration. Hein. On voit quelques grosses galeries qui maintenant essaiment de par le monde. On voit effectivement des marques, des foires qui deviennent des marques et qui essaiment aussi. Est-ce que on va pas vers une uniformisation des goûts? On sent qu'il y a déjà des collectionneurs qui expriment une certaine lassitude et qui demandent de la chair fraîche.
Oui, mais moi j'espère que non, tout d'abord. J'espère que non, parce que je pense que ce qui est le plus intéressant dans cette globalisation, c'est le fait que cela ouvre justement à une meilleure connaissance de scènes locales et régionales. De la foire aujourd'hui à Paris, de la FIAC aujourd'hui à Paris, partaient certains de nos exposants à Artebo, à Bogota, d'autres à la Biennale de Singapour. Et c'est bien pour connaître ces situations locales que ces gens se déplacent, pas pour répéter toujours la même chose.
France Culture, 19h45.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Voilà, un clin d'œil humoristique à l'instant, le morceau Pop Art signé Tiennou, sorti de nos archives musicales, car cette vieillerie date de 1967, à l'âge de l'art contemporain, c'est relativement ancien, on pourrait dire. On est avec Jennifer Flay, la directrice de la FIAC. Vous allez pouvoir vous reposer dès ce soir, parce que la FIAC se termine.
La FIAC se termine, mais d'autres foires commencent, vous savez.
Au fond, vous êtes une globe-trotteuse, vous devez être partout dans le monde.
Une sorte de globe-trotteuse de l'art, j'ai cette chance, oui.
Chance. Votre agenda toute l'année, c'est des foires, des salons
des foires, mais surtout aussi des galeries chez elles. En fait, j'aime bien, entre deux FIAC, voir un maximum des exposants dans leur galerie, dans
leur
ville.
Je rappelle que vous étiez galeriste chez Templon à l'origine. Donc,
j'étais assistante de galerie chez Daniel Templon, chez Catherine Isser et chez Guylaine Husselin, avant d'être galeriste moi-même.
Et votre agenda, résumé comme ça, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, vous allez où?
Écoutez, je vais un peu partout. Je vais, par exemple, la semaine prochaine, j'irai en Italie. Début décembre, j'irai à Miami. Entre-temps, j'aurai essayé de voir des galeries
donc,
à Berlin.
Miami,
et à
c'est Art Basel.
Oui. Turin, c'est Artissima. C'est une très belle foire italienne qui représente la situation italienne et très bien la situation émergente, parce que c'est une foire qui est une sorte de tête chercheuse de jeune galerie que j'aime voir.
Je vous propose maintenant d'écouter deux points de vue opposés sur la FIAC notamment et les foires de l'art et aussi le marché de l'art plus largement. L'artiste Hervé Di Rosa, d'abord plutôt radical, hostile, face à Jean-Philippe Domecq, lui également hostile mais d'un côté plutôt conservateur. Écoutez-les.
Moi, ce que j'ai peur, c'est de l'égalisation de tout ça. Hein. Parce qu'on va voir des foires, des biennales, tout ça, on voit à peu près les mêmes artistes, ou les galeries qui reprennent ces artistes, etc. C'est assez, voilà, les magazines, etc. C'est assez monomaniaque. Vous me direz que l'institution en France était assez monomaniaque aussi, depuis 81.
Après la mort de Dieu, après la mort de la perte de la perspective historique, les peuples se sont reflués vers la perspective artistique, la perspective culturelle, qui donne une espèce de téléologie à l'histoire. Et donc, ce sont des grandes messes artistiques qui ont remplacé les meetings et qui ont remplacé le parvis des églises.
Hervé Di Rosa et Jean-Philippe Domecq, archive INA, extrait des Matins de France Culture, c'était en octobre 2013. Vous avez tous les deux remplacé les églises?
Ah, écoutez, c'est l'art et la religion, peut-être oui, mais pas que les églises, je crois.
Est-ce qu'il faut être plus sage, moins sage? C'est un critère pour vous aujourd'hui dans la tendance, si on parle des œuvres elles-mêmes, des contenus. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce marché?
En termes de moi, je pense qu'il ne faut rien. Il ne faut rien. Les artistes créent. Et ce qui sort de leur création tantôt nous surprend, tantôt nous apaise. Vouloir de l'archichoc pour sa valeur choc n'est absolument pas intéressant.
On bute à l'ordre établi, une très belle œuvre d'ailleurs, qui était à la FIAC au Grand Palais aujourd'hui, de Niki de Saint-Phalle, Hôtel Noir en l'occurrence, Hôtel Noir et Blanc, où on l'appelle aussi Grand Hôtel, une œuvre de 1962, ce qui prouve d'ailleurs que
Georges-Philippe et Nathalie Valois,
moderne, peut se retrouver...
Mais absolument, et d'ailleurs, c'est l'une des tendances de cette FIAC 2016, je dois dire, la volonté très clairement exprimée, et là je cite David Fleiss parce que c'est un connaisseur et un galeriste 1900-2000, une volonté très affirmée d'un certain nombre de collectionneurs d'art contemporain de revenir un peu à la base, de réinvestir le marché de l'art moderne. David Fleiss dit avoir fait sa meilleure FIAC depuis tout jamais, et ça veut dire depuis 43 ans,
depuis
parce
longtemps.
Que c'est la 43e édition de la FIAC. Voilà.
Mario Tavella, vous sentez aussi ces évolutions, quant à vous?
Alors, je ne suis pas un expert en art contemporain, il faut dire. Je n'ai pas l'expérience des madames. J'ai adoré à la FIAC l'œuvre de Do Ho-soo, les coréennes qui fait les pièces avec un matériel très très léger,
oui,
magnifique.
Les maisons, enfin les appartements,
oui, voilà,
en fait.
Voilà.
Magnifique, oui.
Mais pour répondre à votre question, je vois deux extrêmes. Comme, et je me répète un peu, Frise, extrêmement edgy à Londres, incompréhensible, il faut dire, et une foire ici à Paris, un peu plus facile, au moins pour moi.
Moi, j'ai Martine envie Robert. De vous poser une question à tous les deux, parce que finalement, votre succès aux uns et aux autres pénalise les petites galeries, les galeries de découverte qui font les artistes, les grands artistes de demain. Vous avez un tel pouvoir médiatique maintenant, les foires les plus prestigieuses et puis les grandes maisons de vente, hein, parce que faut préciser aussi que Christie's et Sotheby's concentrent en gros les deux tiers du marché. Comment vous pouvez aider davantage les petites compagnies, les petites galeries, pardon, à émerger.
Et donc les jeunes artistes.
Oui, nous travaillons énergiquement pour aider les jeunes galeries. Depuis quand j'ai pris la direction artistique de la FIAC, j'ai créé un secteur pour les jeunes galeries avec une structure de prix adaptée à leurs possibilités, parce que c'est évidemment pas le même. Et en 2009, avec Guillaume Houzet du groupe Galerie Lafayette, pour faire face à la crise qui s'annonçait donc dure et particulièrement pour les petites structures, nous avons créé un secteur subventionné par le groupe Galerie Lafayette pour permettre aux jeunes galeries de participer à la FIAC.
Bien sûr, ça c'est très bien, mais vous savez que le reste de l'année, il n'y a plus personne dans les galeries.
Alors. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé une nocturne des galeries pendant la FIAC pour encourager le public parisien, français et international.
Et pour faire de Paris, au fond, une ville qui s'intéresse à l'art complètement partout.
Mais bien sûr, c'est très bien de venir à la FIAC, mais la FIAC, c'est aussi toute l'année dans les galeries.
Mario Tavella.
Il faut y aller.
Alors, je pense que, comme j'ai dit, nous faisons les marchés secondaires, des second main, mais avec les ventes online qui on est vraiment en train de développer.
Parlons-en d'ailleurs, on parle beaucoup de ces ventes online.
Mais
elles vous inquiètent? Elles se multiplient?
Et je pense qu'avec les ventes online, vraiment, on arrivera à promouvoir des jeunes artistes aussi. Et je voudrais aussi remarquer, et ce ne sont pas des petits artistes, pas du tout, mais la fonction des maisons aux enchères a porté un artiste comme Soulages ou Ontai à des niveaux où l'arte povera italienne qui était très, très méconnue à l'étranger, et à travers les maisons aux enchères, on a vraiment exporté Soulages, Ontai et l'arte povera italienne à l'étranger. En parlant des ventes online, on a vendu, au moins je peux parler pour Sotheby's, pour 5 millions de dollars. On a vu une une hausse, une croissance des ventes des enchérisseurs online du 50%. Et c'est vraiment un domaine où nous voulons vraiment investir. Nous avons à peu près un demi-million de followers sur les médias sociaux chez Sotheby's. Et je suis sûr que ces followers vont suivre aussi les ventes online, qui sont des ventes plus vite, moins coûteuses.
Ouais.
Coûteuses, voilà. Et on a réalisé en effet que nous vendons beaucoup de lots, des petits lots, qui correspondent à un chiffre d'affaires très très petit, et c'est mieux si on les vend online plutôt que dans les galeries.
Mais ouais. Rien ne remplace l'expérience physique de l'art, et je tiens à
de
le dire.
Oui.
L'art doit se sentir, doit être vu, on doit pouvoir le tourner autour.
Le toucher,
et le
non,
contempler.
Pas le toucher.
Le toucher parfois, le toucher parfois, oui. C'est une expérience sensorielle, et donc...
Il y a un fauteuil notamment à la FIAC, une sorte de... avec des tiges de bois, où alors on ne peut pas vraiment s'asseoir, mais ouais. L'artiste, lui, s'assoit pour refaire des positions de joueurs de
oui, ça c'est également montré à la galerie Georges-Philippe Agnette et les Valois. C'est assez fabuleux, cette construction. C'est un jeune artiste.
Un peu inquiétante,
que la galerie,
en l'occurrence,
représente, justement. Oui, inquiétante, étrange, mais en même temps fabuleux. Et il va y avoir un ensemble qui reprend les positions de joueurs de tout un match de football. Alors, j'ai hâte de voir cela installé.
Vous êtes tous les deux étrangers, on l'a dit, néo-zélandaise pour vous, Jennifer Flay, italien pour vous, Mario Tavella. Quand vous êtes en France, comment est-ce que vous êtes reçu? Le regard de la presse, par exemple, est-ce qu'il est différent? Comment est-ce que vous...
Énorme. Je dois dire que ici en France, la presse est beaucoup plus attentive aux tous les arts qui ont vendent. À Londres, il y a une concentration de la presse sur l'art moderne et contemporain et parfois les tableaux anciens. Ici, la presse regarde et parle de tout. Art africain, art décoratif, art déco. Et c'est très bien, je trouve. Il y a encore un engouement, une vraie culture, une érudition que j'ai trouvée qui manquait un peu à Londres, et c'était une des raisons pour laquelle j'ai quitté Londres pour arriver à Paris.
Jennifer,
on le remarque également à Paris, les exposants de la FIAC saluent unanimement la culture du public. La presse écrit aussi, bien sûr, très massivement sur l'événement, qui est bien reçu. Moi, en tant que néo-zélandaise, on m'a souvent critiqué d'être trop internationale. C'est une perception, peut-être parce que j'ai un accent qui n'est pas tout à fait le vôtre, mais la foire est néanmoins 28% française, ce qui est tout à fait correct pour un événement international.
Pour se résumer et conclure cette émission, avec vous Martine Robert, on a évoqué plusieurs données, peut-être pour simplifier et dire un petit peu, on observe un ralentissement du marché de l'art et en même temps une sorte de bonne résilience du marché français. Les chiffres peut-être, Martine Robert, et puis tous les deux pour conclure rapidement, les raisons de ce à la fois ralentissement et cette résilience française.
Le dernier rapport Art Price signalait déjà un début de reprise. Pour ce qui est de l'art contemporain. Je voulais juste dire un mot sur le marché français. Cette érudition et cet intérêt pour tous les arts fait aussi que Paris est préservé sur nombre de genres, comme les arts premiers, comme les arts asiatiques, la photo,
l'art
etc.
Déco, la photo,
les arts déco, le mobilier 18e.
Voilà. Cela fait peut-être aussi que la FIAC 2016 a été un succès pour la majorité de nos exposants. J'ai envie de dire... contre toute attente.
Je crois, si je peux dire, je ne parlerai pas... Oui, on a eu une baisse, mais je crois que la baisse est liée au fait que les grandes œuvres ne sont pas arrivées sur le marché. Ça.
On se quitte avec ce célèbre morceau, ça vous fait danser, Jennifer Flay, morceau bien sûr de David Bowie, extrait de l'album Un Kid Dory en 71, et il rend hommage à Andy Warhol. C'est aussi notre manière de rendre hommage non seulement à Andy Warhol, mais aussi à David Bowie. Voilà. Merci.
Vente David Bowie à Londres dans 2 semaines.
Vente David Bowie chez Sotheby's à Londres.
De sa collection d'art moderne, contemporaine et meubles Memphis.
Voilà. Puis vous savez
que grandes ventes à Paris aussi, parce qu'on se rappelle de comment la vente Yves Saint Laurent en 2009 a été un bouffée d'oxygène pour un marché en crise.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment Jennifer Flay, directrice de la FIAC, Mario Tavella, PDG de Sotheby's, Martine Robert, journaliste aux Échos, et aussi Solveig Godeluc qui était avec nous en début de cette émission, auteur du livre Zavieniel, La voix du pirate. Pour aller plus loin sur le marché de l'art et l'art contemporain, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre page sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de Soft Power sur le site de franceculture.fr.